J'aimerais lire un texte d'introduction, Luc 4, 18. On fait un petit bond en arrière de 2000 ans, dans une autre culture, dans un autre pays, peut-être certains y ont voyagé. On se retrouve à la synagogue de Nazareth. La synagogue, c'est une sorte d'église pour les Juifs. Et là, donc, eh bien, on y lit la Torah, la parole de Dieu, on y enseigne, on y prie également. Et Jésus se retrouve dans cette synagogue. Il avait cette bonne habitude, lui aussi, dès le plus jeune âge, eh bien, de partager, de lire la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il est dit dans Luc 4, verset 18. On peut lire même le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula. Oui, à l'époque, c'est des rouleaux, hein, c'est pas des livres papier ou alors les tablettes que vous avez maintenant électroniques, hein. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour en faire la lecture. On lui remit donc le livre du prophète Ésaïe, le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur, il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commence à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Amen. » Alors donc, on se retrouve quelques siècles avant, là, donc 2000 ans avant, on fait un saut, et puis ce qui m'a interpellé donc dans cette lecture que Jésus fait, ce message où il dit bien qu'il a été oint, qu'il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, c'est ce texte, c'est cette parole pour nous ce matin sur laquelle on va s'appuyer. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. On a entendu tout à l'heure un témoignage de ce que réellement un cœur brisé peut vivre, quel est son environnement, ce qui se passe à l'intérieur. Et Jésus nous dit bien qu'il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Je ne sais pas quelle image vous avez du passé, mais parfois on entend ces expressions « Ah, c'était mieux ». Avant, bah oui, c'était mieux avant. C'était le bon vieux temps, etc. Et nos souvenirs, parfois, on peut les embellir. Et finalement, bien pour décrire notre époque, on dit c'était mieux avant. Juste une petite question. À votre avis, qui a écrit ce que je vais vous lire? Qui a écrit ce que je vais vous lire? Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité. Et aucun n'a du respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. À votre avis, quel sociologue, quel intellectuel peut écrire cela? Vous avez une idée? Et à quelle époque? Comment? Alors, vous n'êtes pas loin, hein? C'est Socrate. C'est Socrate. C'est quand même étonnant. Et Socrate, c'est moins 470, moins 399. Et on se dit finalement, mais y a rien de nouveau sous le soleil. On prend les mêmes, excusez-moi, et puis on recommence. Et chaque génération, chaque époque vivent les mêmes problématiques, les mêmes espoirs, les mêmes souffrances. Et déjà au temps de Jésus, eh bien il y avait ces réalités de maladies, de cœurs brisés. Alors on mettait peut-être pas les mêmes mots dessus, mais les gens vivaient la même chose, hein. Aujourd'hui, on a un vocabulaire, et je le conteste pas, qui est spécifique concernant certaines maladies, etc. Et si ça peut aider, c'est bien. Mais les réalités, eh bien, on les retrouve ici. Et j'aimerais nous partager quelques instants, justement, ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit, eh bien, j'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que déjà à son époque, il y avait des gens, des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui avaient un cœur brisé. Et Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, C'est quoi d'abord un cœur qui est brisé. On peut comprendre comme ça qu'un cœur brisé, eh bien, c'est un cœur qui ne fonctionne pas bien. C'est un cœur qui est abîmé. C'est un cœur qui est cassé, bien sûr. Et là, il y a deux sens qui sont complémentaires. Il y a le sens, on va dire d'abord médical, et puis il y a le sens figuré, le sens normal. Le sens médical, je le disais parce que je suis pas un spécialiste, mais que l'accumulation de stress, des chocs émotionnels intenses, peut conduire à une paralysie du muscle cardiaque, d'une manière très concrète. Hein, peut-être que certains d'entre nous peuvent parfois bien ressentir de tels effets. Il y a une partie du cœur qui n'arrive plus à se contracter normalement, et puis il se déforme. Et là, finalement, il y a quelques conséquences plus ou moins graves. Hein. Il peut y avoir des essoufflements, il peut y avoir des palpitations, des douleurs brutales. Ça va jusqu'à la perte de connaissance et au malaise vagal. C'est ce qu'on appelle, les médecins l'appellent ainsi, le syndrome du cœur brisé. Le syndrome du cœur brisé. Ça, c'est le sens médical. Et puis, il y a le sens figuré, qu'on connaît peut-être aussi également ce matin. C'est une expression pour décrire une souffrance, alors, qui est psychologique, qui est morale, mais qui, nous le croyons également, est aussi spirituelle. Yves en a parlé tout à l'heure, hein, dans cette rupture amoureuse, il y a eu un choc là aussi émotionnel qui l'a conduit à avoir aussi un cœur brisé. Et quels dégâts dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Les conséquences, elles sont diverses, on le sait. C'est très, très handicapant. Hein, on se sent pas en forme. Les relations parfois avec les autres sont compliquées. Les relations avec nous-mêmes parfois sont compliquées également. Hein. On ne se supporte plus, et je dis pas cela avec ironie, mais il y a des moments où on ne se supporte plus, et il y a quelque chose là aussi en nous qui est complètement détraqué. Et puis, on sait très bien que le sommeil, l'alimentation, tout ça se dégrade, c'est perturbé, etc., etc. Dernièrement, j'écoutais le témoignage de quelqu'un qui rendait compte de son burn-out. Là aussi, hein, on en parle, bien entendu, de toutes ces choses. En ce moment, les vocabulaires, c'est angoisse, dépression, troubles alimentaires, stress. Et cet homme dit que du jour au lendemain, alors qu'il était hyperactif, qu'il était bien dans ce qu'il faisait, eh bien du jour au lendemain, eh bien il a vécu ce burn-out. Il vivait comme Yves dans un état d'hypervigilance. Il pensait toujours que quelqu'un voulait lui faire du mal, allait lui faire du mal. Dans le cerveau, ça travaillait tout le temps, y compris la nuit. Il avait peur en permanence qu'il lui arrive quelque chose. Et puis il n'avait plus de motivation. Plus goût à rien, même les choses qu'il avait l'habitude de faire devenaient compliquées, voire insurmontables pour lui. C'est terrible, hein? C'est terrible, ce cœur qui est brisé de cette manière, etc., etc. Et cet homme, eh bien justement, rapportait ces choses. Alors, Yves a cité le psaume 107, mais le psaume 107, je vous invite d'ailleurs peut-être à le relire chez vous, si vous avez une Bible, nous décrit justement eh bien quatre réalités, des situations qui peuvent engendrer un cœur brisé. Il y en a quatre dans ce psaume. La première situation, c'est un vide intérieur. Parfois, bien, on a du mal à l'expliquer parce que c'est tellement personnel, mais on est angoissé par rapport à l'avenir, par rapport à l'environnement. Il y a les grandes questions de la vie auxquelles on n'a pas de réponse. D'où est-ce que je viens? Hein, vous les connaissez. Où est-ce que je vais? Comment je vais? Etc. Et ce vide intérieur, finalement, qui n'est pas comblé, eh bien, peut produire un cœur qui va être brisé. Des angoisses de l'avenir, des peurs que l'on ne maîtrise pas, des peurs qui surviennent de cette manière, etc. Et tous ces éléments nous font que, eh bien, notre cœur est brisé. Impossible pour moi de trouver du repos dans ma vie. Il y a toujours quelque chose sur le feu, comme on dit, hein. Toujours quelque chose dans ma tête qui m'obsède, qui me fait peur, qui m'effraie. Et c'est une des raisons que le psaume 107 donne, justement, eh bien, à cette réalité d'avoir un cœur brisé, vivant dans l'angoisse. La deuxième situation, alors, elle est moins partagée par notre société d'aujourd'hui, hein, qui rejette Dieu, mais la Bible nous parle quand même du rejet de la foi en Dieu, du rejet de la parole de Dieu, du rejet des conseils que Dieu nous donne, du rejet de son amour, de sa patience, de son pardon. Tout cela, bien sûr, dans notre société, on ne vous en parle pas. Mais c'est une raison aussi pour laquelle, parfois, on peut avoir un cœur qui est brisé. Parce qu'on ne veut pas de Dieu dans nos vies. Avant de connaître Dieu, alors j'avais 18 ans, et à 18 ans, on refait le monde. Hein. On a tous refait le monde. Hein. Voilà. Et je disais, écoute, Dieu, toi, tu restes à ta place, et moi, je reste à la mienne, et c'est bien comme ça. Quelle arrogance! Quel arrogant, hein. Quand on a 18 ans, on craint personne, malheureusement. Hein. Et voilà. Et heureusement que Dieu a de la patience. Hein. Heureusement que Dieu a de la patience. Mais voilà, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Mais il y a des conséquences, et parfois, ça peut être un cœur qui est brisé, parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas que Dieu intervienne dans notre vie. Il y a d'autres conséquences, dans ce psaume 107, j'ai appelé ça les conséquences de nos inconséquences. Ah, c'est pas philosophique, hein, mais c'est pour vous dire qu'on récolte, quoi? On récolte ce qu'on sème. Heureusement d'ailleurs, hein. Si vous semez des carottes, vous n'allez pas récolter des artichauts. Là, il y aura un problème. Hein. C'est quand vous semez des carottes, en principe, c'est des carottes qui vont pousser. Et alors, c'est une loi naturelle, et c'est bien. Mais c'est aussi une loi morale. C'est aussi une loi spirituelle. J'entendais dernièrement quelqu'un qui me disait, finalement, dans son lieu de travail, lorsque cette personne travaillait, elle avait un chef qui était très, très méchant avec tout le monde. Et un jour, quelqu'un lui a dit ceci, et cette personne n'était pas chrétienne. Elle dit, attention, monsieur un tel, la roue tourne. La roue tourne. Vous connaissez l'expression. Alors on peut dire, ouais, mais le problème, c'est qu'effectivement, la roue a tourné quand cet homme qui était très très méchant avec son service est parti en retraite. Au bout de 6 mois, il est parti atteint d'un cancer. La roue avait tourné. La roue avait tourné. Ce qu'on sème, eh bien, on le récolte. Et effectivement, eh bien, il y a parfois dans nos vies des choix qu'on a faits, des paroles qu'on a semées, eh bien, qui ont des conséquences. Et la conséquence, c'est un cœur qui peut être brisé. Parce qu'on a fait des mauvais choix. Parce que, eh bien, on se retrouve dans des situations, finalement, eh bien, qui découlent de nos choix. Et on se retrouve avec un cœur brisé. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on peut tous connaître, hein. Ce psaume le décrit aussi. Ce sont les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Il suffit parfois d'un coup de téléphone, il suffit d'un courrier, il suffit d'une fraction de seconde pour que tout bascule. Pour que tout bascule. Et là, personne ce matin n'y en est à l'abri. Personne ne peut dire, oh ben moi, hein, ma vie c'est comme un long fleuve tranquille ou un beau chemin semé de pétales de roses, etc. Non, tout peut basculer en une fraction de seconde, on le sait. Et cela peut produire également un cœur qui est brisé. Et puis, ce matin, donc, à travers ces expériences, si c'est votre cas, bien, il y a une bonne nouvelle. On l'a entendu, c'est que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, quelles que soient finalement les raisons. Il y a peut-être certainement d'autres raisons qui vous sont propres ce matin, mais Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Le psaume 34, je vous le cite et je vous le lis. Verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Qui aurait pu intervenir dans la situation de Yves? Les médecins ont été essayés, sa famille a essayé, etc. Tout le monde a essayé, mais il n'y en avait qu'un qui d'en haut pouvait entendre sa détresse et le secourir, c'est bien sûr l'Éternel. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi Jésus peut-il guérir les cœurs brisés? Pourquoi Jésus dit-il, eh bien, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé? Eh bien, la réponse peut être toute simple, voire naïve, parce que Jésus lui-même a eu le cœur brisé. Parce que Jésus lui-même a eu le cœur brisé. Je ne sais pas quelle est l'idée que vous faites du Christ, de Jésus, mais la Bible nous parle non seulement de son enseignement, c'est vrai, de sa parole. Citez-moi un miracle de Jésus, par exemple, ce matin. Allez, un miracle, parmi tant d'autres. Comment? L'eau en vin, en voilà un. D'autres? Multiplication des pains, en voilà un deuxième. Voilà, et des miracles, on en connaît, etc. Et ils sont vrais. Et ce matin, là aussi, c'est une belle réalité. Hein, et la Bible nous parle de ça. Mais la Bible nous parle également, eh bien, que Jésus, dans sa vie, a eu des moments de souffrance, a eu des moments de douleur, a eu même des moments d'angoisse, d'agonie, de peur intense, de peur extrême. Je vous lis juste un texte, c'est dans Ésaïe au chapitre 53. Et le verset 1 à 3 nous dit ceci. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance, il était pareil à celui qui, face auquel on détourne la tête, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. On a tous été un jour réconfortés dans notre épreuve par quelqu'un qui nous a dit « Je te comprends, je sais ce que tu vis, je l'ai vécu aussi. Dans telles circonstances, moi aussi, bien, j'ai vécu la même chose et je veux être à tes côtés, mais je te comprends, je comprends tes sentiments, même tes réactions. Et on sait que parfois même, dans des moments difficiles qu'on vit, nos réactions, qui sont justement prisonnières de notre souffrance, ne sont pas toujours comprises des autres. Et les autres, au lieu d'essayer de comprendre, parfois bien s'éloignent de nous. « Ah bah, ils parlent comme ça, ils parlent comme ça, etc. C'est pénible, moi je m'éloigne. » Alors qu'il y a une souffrance, alors qu'il y a des réalités qui finalement bien nous rendent prisonniers et on réagit d'une manière bien sûr différente. On réagit de manière différente. Mais en tout cas, Jésus aussi a eu le cœur brisé. Et cela dans plusieurs circonstances. Est-ce que vous vous rappelez du, c'est en français, mais peut-être dans les autres langues aussi, c'est la même chose, du verset le plus court du Nouveau Testament ou même de la Bible. Un nom et un verbe. Jésus pleura. Et à quelles circonstances il pleure? Dans quelles circonstances? Lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare. Jésus a le cœur brisé par ce deuil. C'est une des causes principales aussi, hein, lorsqu'il y a une rupture, là aussi un décès, quelque chose, eh bien, c'est une des raisons principales d'avoir un cœur brisé. Jésus pleura. Jésus a le cœur brisé à ce moment-là, devant la sépulture de Lazare. Lorsque Marthe et Marie, eh bien, pleurent et viennent vers lui, il est ému. Jésus a le cœur brisé à ce moment-là. Jésus a le cœur brisé par le reniement de Pierre, par la trahison de Judas, par l'abandon des disciples. La Bible nous dit qu'à Gethsémané, eh bien, il s'est retrouvé seul. Tous vont l'abandonner. Un cœur brisé par l'abandon, par la trahison. Peut-être que quelqu'un, ce matin, a vécu et vit encore des conséquences. Lorsque on avait établi une relation amicale, voire amoureuse, et puis il y a une trahison, il y a une rupture qui est brutale, etc. C'est un moment où notre cœur est brisé. Et Jésus n'est pas resté insensible lorsque Judas l'a trahi, lorsque Pierre, eh bien, s'est éloigné de lui. Jésus a eu le cœur brisé également à ce moment-là. Et puis, il y a cet endroit terrible pour Jésus, qu'on appelle Gethsémané. Gethsémané, c'est un endroit où Jésus, d'habitude, vient avec ses disciples pour prier, pour chanter des cantiques, pour se reposer un petit peu de la vie de Jérusalem. Et puis, la Bible nous dit que le dernier moment que Jésus va y vivre, il va y être, c'est un moment qui est terrible. Je lis les textes, hein. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse, de frayeur et d'angoisse. Et il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. On parle même d'agonie. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, étant en agonie, Jésus pria avec plus d'insistance, sa sueur devant comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Les médecins, lorsque vous leur faites lire ce texte, eh bien, décrivent ici une situation de grand stress, d'angoisse profonde, qui aurait pu être fatale à Jésus. Et Jésus aurait pu avoir médicalement un cœur brisé qui s'arrête à Gethsémané. Tant la douleur, tant la souffrance, tant ce qu'il vit à l'intérieur est intense, à un tel point que la sueur devient comme des grumeaux de sang. Il y a un mécanisme physiologique ici qui fait part d'un grand stress, Et on peut se poser la question ce matin, mais qu'est-ce qui suscite autant d'angoisse? Je répète, les mots sont bibliques, autant de frayeur à ce moment-là chez Jésus. Et il y a peut-être quelqu'un ce matin qui comprend mieux ces mots, parce que vous les vivez. L'angoisse, les frayeurs qui vous réveillent la nuit, qui vous empêchent de vous rendormir, qui vous saisissent en pleine journée, qui vous fichent sur place, transpirant, etc. Des angoisses, des frayeurs qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. Eh bien, Jésus va les vivre à Gethsémané. Qu'est-ce qui fait que Jésus vive ces telles réalités? Eh bien, c'est tout simplement l'horreur qu'il va vivre dans quelques heures. L'horreur de la croix. C'est ce moment terrible où Jésus va donner sa vie pour nous. Et on y reviendra, bien sûr, dans quelques instants. Mais ce que je voulais vous dire, d'abord, pourquoi Jésus? Eh bien, ce matin, s'il y a quelqu'un au monde qui comprenne profondément, parfaitement, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, vos combats, vos peurs, vos faux espoirs, eh bien, c'est bien Jésus. Il n'y a personne comme lui qui soit aussi sensible, aussi prévenant, aussi bienveillant face à votre cœur brisé. Il n'y a personne qui puisse, comme Jésus, exactement définir ce qui se passe à l'intérieur, ce que les autres ne comprennent pas, ce que des médecins ne comprennent pas, ce que des amis ne comprennent pas, ce qu'un mari ne peut pas comprendre, ce qu'une femme, que des enfants, des parents ne peuvent pas comprendre, Jésus lui comprend. Parce qu'il a eu ce cœur brisé. Parce qu'il a vécu également ce cœur brisé. Et ce matin, il est rempli de compassion. Il est rempli de bienveillance à l'égard de chacun d'entre nous. Nous pouvons nous approcher de lui. Il est le plus sensible, le plus bienveillant qu'on puisse connaître sur cette terre. Il est celui parce que lui-même a vécu bien ce cœur brisé, et cela plusieurs fois dans sa propre vie. Pourquoi Jésus, non seulement il a le cœur brisé, mais il a également le remède pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a également ce remède. Et dans Ésaïe 53, je lis la suite, nous dit ceci: ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, on l'a considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. Ce texte, c'est un des plus grands mystères pour l'humanité. C'est celui de la guérison des cœurs brisés. Qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, tout simplement qu'il y a un lien entre les souffrances de Christ à la croix et puis nos propres douleurs. Il y a un lien entre un cœur qui est brisé, son cœur brisé, et puis nos fautes, nos péchés. Et il y a un lien entre les blessures de Jésus sur la croix et puis la guérison de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Que se passe-t-il donc à la croix lorsque Jésus meurt sur la croix? Eh bien, à ce moment-là, précisément, à la croix, pour Jésus, ce lieu devient un lieu d'horreur indescriptible. Les mots sont tellement faibles. Il y a une réalité d'abandon. Son Père Céleste va dire, bien, il va détourner son regard. Et Jésus va crier, mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me laisses-tu seul dans ce moment d'horreur terrible? Pourquoi? Parce que Jésus accepte, à ce moment-là, de porter sur lui, bien, tous nos péchés et toutes leurs conséquences. Et c'est quelque chose pour Jésus qui est terrible, qui est horrible. Tout ce que nous avons pu penser faire en dehors de la volonté de Dieu, tout cela, bien, Jésus est en train de le porter sur la croix. Et d'une manière terrible, eh bien, il va accepter cette mort à notre place pour que ce matin, nous puissions être sauvés, pour que ce matin, nos cœurs brisés puissent être guéris, être pardonnés, être restaurés, être lavés. Le texte nous dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Que nous sommes guéris. Pourquoi Jésus? Eh bien, parce que lui-même a eu à plusieurs moments dans sa vie un cœur brisé. Et il est celui qui peut exactement le mieux nous comprendre, le mieux nous assister. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Alors, comment Jésus guérit-il un cœur brisé? Yves, tout à l'heure, a parlé du psaume 107. Je vous le rappelle, si vous pouvez relire, parce que dans ce psaume 107, eh bien, il y a ces quatre catégories de personnes qui finalement s'expriment, ont un cœur brisé, et toutes vont dire ceci, et je vous le lis. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. C'est un acte fort, c'est un SOS. Je ne sais pas si un jour vous avez été en détresse ou vu quelqu'un en détresse, mais quand on est en détresse, on ne parle pas à mi-voix, on crie, on s'exprime, au secours, je suis en train de me noyer, au feu, venez à l'aide, etc. Ça sort, c'est un cri de détresse, un cri d'angoisse. Et la Bible nous dit que ces hommes, ces femmes, dans ces moments, bien, ils ont lancé un SOS. Leur situation est dramatique. Ils ont peut-être tout essayé, eux aussi, mais ils n'ont plus d'espoir. Et le seul qui puisse intervenir, eh bien, c'est Dieu. Jésus entend les cris de désespoir. Il a entendu un jour dans la Bible les cris d'une mère pour sa fille tourmentée. Viens à mon secours parce que ma fille est tourmentée par le démon. Et c'est un cri d'une mère. Les disciples voulaient la faire taire. Ils n'ont pas pu. Parce que cette mère n'avait qu'un objectif, c'est que sa fille soit guérie. Et Jésus a entendu. Et Jésus a guéri. Et Jésus a délivré, a libéré. Il a entendu les cris d'un aveugle. Un certain Bartimée. Lui aussi, fils de la ville, aie pitié de moi, il crie. Alors, la foule, pour pas être trop dérangée, etc., eh bien, elle veut le faire taire. Et lui, que va-t-il faire? Il va crier encore plus fort. Il va crier, Seigneur, aie pitié de moi, et Jésus va entendre. Et puis, il va guérir également cet homme. Le psaume 34, verset 7, dit ceci, « Quand un malheureux chuchote, crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Il y a des moments dans nos vies, frères et sœurs, chers amis, où on crie de douleur, on crie de désespoir, on crie sur un lit d'hôpital, quand les médicaments ne font pas effet, on crie quand on a le résultat d'examen, on crie quand notre famille est atterrée, quand elle a peuré, quand elle nous dit il n'y a plus d'espoir, on crie à ce moment-là, on crie. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. N'ayez pas honte, ce matin, cette semaine, eh bien d'exprimer votre détresse, vos angoisses, vos frayeurs, parce que Jésus lui-même les a vécues, et il vous comprend, et Jésus les a vécues, et il veut vous assister, Jésus les a vécues, et il veut guérir votre cœur brisé. Et puis dans ce psaume 107, on pourrait dire que Jésus va adapter sa réponse en fonction des besoins de chacun. Pour ceux qui ont le cœur brisé, parce qu'il y avait aussi ceux qui avaient un vide intérieur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié, si j'en ai parlé, eh bien Jésus va les combler de son amour, de sa paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Vous avez remarqué, et c'est une réalité, hein, combien autour de nous, bien les gens sont angoissés, et ils ont de bonnes raisons d'être angoissés. Quand on voit le monde, quand on entend ce qui se passe, là aussi, l'insécurité, la guerre, etc., eh bien, le cœur n'est pas en paix. Le cœur n'est pas en paix. Et alors, ce matin, ceux qui, dont le cœur est vide, qui sont angoissés, il n'y a pas de réponse à leurs questions existentielles. Eh bien, Jésus vous dit, je vous donne ma paix. Je veux vous rassurer quant à votre éternité, quant à votre vie ici-bas, je vous donne ma paix. Avoir un cœur apaisé, ça c'est un trésor extraordinaire aujourd'hui. Un trésor extraordinaire. Je parlais avec une bien-aimée ce matin en venant ici, où elle me disait qu'elle avait plusieurs dizaines de cachets. Quelle détresse, quelle souffrance. Jésus, là aussi, restaure les cœurs brisés. Amen. Jésus restaure également les cœurs brisés. Pour ceux et celles qui ont rejeté la parole de Dieu, il les libère de leur fausse conception. Oh, j'en avais aussi une autre fausse conception, ou c'était plutôt une que j'avais entendue. De toute façon, moi, quand je serai face à face avec Dieu, je vais lui dire ces quatre vérités. Je lui dirai qu'il a été injuste sur cette terre. Je lui dirai qu'il y a eu de la misère. Je lui dirai tout ça. La Bible nous dit que quand on sera devant lui, on fléchira les genoux, hein, on n'aura rien à dire. C'est une fausse conception qui parfois bien peut nous faire mousser ou nous donner une forme d'arrogance. Mais là encore, Même si ce matin on est arrogant envers Dieu, Dieu patiente. Dieu nous aime. C'est extraordinaire quand même. Dieu ne veut pas nous rejeter, mais au contraire, eh bien, il veut nous débarrasser, nous libérer des mensonges de l'adversaire, des fausses conceptions de qui il est. Dieu nous aime. Dieu veut aussi nous restaurer. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité sur ce qu'il est, la vérité sur sa parole. Et puis, il y a ceux qui sont prisonniers de leur passion, de leur péché, etc., etc. Oui, on a fait des mauvais choix, oui. Mais là, la Bible nous dit dans ce texte, dans ce psaume 107, il va leur envoyer sa parole et il va les guérir. Il va les sauver. Oui, mon enfant, je te pardonne tes péchés. Quelle parole libératrice! Oui, pour cela, eh bien, je veux te restaurer, je veux te conduire. Oui, pour cela, je veux nettoyer ton cerveau de tout ce que tu as pu voir. Oui, pour ça, je veux nettoyer ta langue de tout ce que tu as pu dire. C'est une image, mais c'est une réalité. Parce qu'il y a, nous le savons, le péché des passions qui sont plus fortes. Oh, je m'en sors quand je veux. Je n'ai jamais fumé. Si une fois un cigare comme ça, parce que bon, j'étais dans un état second ou troisième, je sais pas comment. Mais à part ça, j'entendais mes copains, mais moi, la cigarette, j'arrête quand je veux, hein. Je la pose là, puis c'est fini. Alors, il la posait là, puis ils en prenaient 10 dans le paquet, quoi, pour continuer. Et il y a des choses, de toute façon, qui sont plus fortes que nous. Il envoya sa parole et il les guérit. Une parole de Dieu pour nous ce matin, et nous sommes guéris, et nous sommes libérés de nos passions. On n'a plus envie, c'est fini. Jésus guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs. Tous sont péchés, c'est vrai, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Quelle parole libératrice! Oui, quelle parole libératrice ce matin! Une parole, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle parole libératrice! Oui, il envoya sa parole et les guérit. Et puis, pour ceux qui subissent une épreuve de la vie, parce que ça peut arriver à tout le monde, on le sait, eh bien, il arrête la tempête, il nous fait retrouver du calme. Hein, le psaume 23, vous connaissez, il me conduit dans le vert pâturage, il restaure mon âme. Matthieu 11, 23, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi, vous pouvez vivre aussi ces paroles du psaume 107. Ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Quelle que soit la raison de vos angoisses, de votre cœur qui est brisé. Oui, Jésus, ce matin, est celui bien qui nous libère et qui nous affranchit dans leur détresse. Il est celui qui délivre de nos angoisses. C'est un acte très fort pour chacun d'entre nous. Alors, ce matin, eh bien, nous pouvons vivre ces belles paroles du psaume 107, pouvons vivre cette parole de Jésus qui a dit « Je suis venu, j'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Parce que le psaume 107 dit ceci ensuite, eh bien, qu'il loue, qu'il remercie l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Nous ne méritons rien, mais dans sa grâce, dans son amour, eh bien, Jésus nous libère, Jésus nous affranchit. Il nous pardonne. Alors, en terminant cette lecture dans cette synagogue de Nazareth, il y a plus de 2000 ans, Jésus va dire quand même une parole, là aussi, qui est fondamentale. Il dit ceci dans cette synagogue, cette parole de l'Écriture que je viens de lire, hein, Jésus qui est envoyé pour guérir les cœurs brisés, cette parole, elle est accomplie. Elle est accomplie. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, eh bien, désormais, depuis 2000 ans, cette parole, elle s'accomplit chaque jour pour toutes celles et ceux qui veulent lui faire confiance, pour toutes celles et ceux qui, ce matin, disent « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Oui, je vis dans l'angoisse, oui, je vis dans la frayeur, oui, ce témoignage m'a interpellé parce que je m'y suis reconnu. Mais Seigneur, eh bien, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait il y a 2000 ans, ce que tu as fait il y a 40 ans, eh bien, tu veux le faire aujourd'hui. Il y a un beau verset qui dit ceci, là, vous le lisez, là, sur votre gauche. Jésus-Christ est le même, hier, il y a 2000 ans, aujourd'hui et éternellement. Éternellement. Ce matin, eh bien, nous voulons simplement nous approcher de Dieu avec foi, comme ces hommes, ces femmes dans le psaume 107 l'ont fait, comme ces hommes et ces femmes dans les évangiles l'ont fait, comme Yves l'a fait, comme d'autres l'ont fait ce matin, eh bien, nous pouvons venir dans la présence de Jésus et dire, Seigneur, eh bien, je viens à toi. Oui, moi aussi j'ai un cœur brisé. Moi aussi, je vis dans l'angoisse. Moi aussi, j'ai des frayeurs. Moi aussi, eh bien, j'ai peur de l'avenir, etc. Mais je viens à toi. Je crois dans cette parole que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Je propose deux moments maintenant pour vous permettre, vous aussi, d'exprimer votre besoin à Jésus. Ce n'est pas sur la forme, mais plutôt sur l'état de votre cœur ce matin, eh bien que le Seigneur va se manifester. Je vous invite quelques instants d'abord à vous recueillir. On peut fermer nos yeux, ça peut nous aider là aussi pour ne pas être distrait. Et puis réfléchir, méditer sur ce qu'on a entendu dans les chants, dans le témoignage, dans la parole de Dieu. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, ce matin, eh bien, je veux croire aussi que c'est pour moi cette parole que tu viens pour guérir mon cœur brisé. Et pendant qu'on réfléchit quelques instants sur cette parole, Jésus est venu pour guérir mon cœur brisé, eh bien, on peut conclure ce temps de réflexion si quelqu'un souhaite que Jésus, d'une manière concrète, pratique, eh bien, guérisse ce cœur brisé là où vous êtes. Pendant que nos yeux sont fermés, eh bien, vous pouvez lever votre main comme un signe de foi, d'espérance. Oui, je vous ai vu au fond. Y a-t-il quelqu'un ? Oui, je vous ai vu devant. Oui, je vous ai vu. Oui, vous pouvez baisser. Y a-t-il quelqu'un ? Oui, je vous ai vu aussi au fond. Voilà, s'il y a encore quelqu'un d'autre, Seigneur, eh bien, tu es venu pour guérir mon cœur brisé. Et c'est comme si ma main saisissait maintenant cette parole. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui voudrait faire ? C'est un acte de foi et c'est Jésus qui voit nos mains. C'est Jésus qui les saisit. Y a-t-il encore quelqu'un qui voit cet acte de foi ? Seigneur, eh bien, tu es venu pour guérir mon cœur brisé. Amen. Et on veut vous bénir ce matin déjà dans ce premier temps. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité. Nous prions pour ces bien-aimés qui ont le cœur brisé. Seigneur, toi seul connais exactement, toi seul as la meilleure façon de guérir, toi seul as la compassion, la sensibilité pour ne pas rejeter, pour ne pas mettre dehors, mais pour te manifester. Envoie ta parole pour guérir. Pardonne s'il y a besoin de pardonner. Restaure s'il y a besoin de restaurer. Guéris le corps s'il y a besoin d'être guéri. Au nom de Jésus, nous savons en tout cas que tu es un Dieu de grâce et de miséricorde et que tu vas accomplir cette parole maintenant parce qu'il y a 2000 ans, tu l'as accompli sur la croix du calvaire. Merci. Par le sang de Jésus, dans tes meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Et nous t'en bénissons. Amen. Amen. Et puis, je propose un deuxième temps pour ceux qui le désirent également, pour vous qui venez peut-être pour la première fois. Eh bien, vous avez vu tout à l'heure, on a prié simplement pour des bien-aimés qui ont demandé la prière. Et si c'est votre besoin ce matin, si vous voulez aussi qu'on puisse prier pour vous et avec vous, eh bien, on va chanter quelques chants avec notre sœur, et puis pendant ce moment où on va chanter, exprimer notre foi, eh bien vous pourrez venir sur le devant, et simplement on va prier avec vous et pour vous, afin que là aussi, bien ensemble, nous puissions dire Seigneur merci parce que tu guéris non seulement le cœur médical, hein, mais également le cœur brisé, si c'est votre situation ce matin, eh bien vous pourrez venir. Hein, simplement sur le devant, on va laisser Jessica nous conduire dans quelques chants. Et puis voilà, hein, approchez-vous ce matin dans la foi, avec cette espérance, eh bien que Dieu est là pour nous bénir, que Dieu est là aussi pour secourir, et que si c'est votre besoin, eh bien nous pourrons prier avec vous, hein, au nom de Jésus-Christ.